Bonjour chers amis, que Jésus vous bénisse. Jésus, le Fils de Dieu, vivant et tout-puissant, le Prince de la paix. J'espère que durant ce bel été, vous avez l'occasion d'adorer le Seigneur Jésus pour toutes les gloires qui paraissent dans la nature. Mais aussi, ce bon temps peut nous encourager à nous retirer dans un endroit tout seul et à donner des minutes précieuses à Dieu en adoration, en reconnaissance. Seigneur Jésus, bénissez ces instants, bénissez les âmes qui vous aiment, qui veulent étudier votre parole et la mettre en pratique. Que toute la gloire soit sur ces personnes et sur moi-même pour mieux vous servir. Amen. Donc nous avons abordé l'autre jour, lundi, le thème de l'Apocalypse. J'ai été un peu long dans des mises en garde, le préambule, et puis ensuite, je vous ai montré dans différentes épîtres qu'il y avait, bien sûr, des vrais et des faux serviteurs. Et donc quand Jésus se manifeste à Jean, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Les serviteurs, dont Jean, mais aussi toutes les églises, les bons et les moins bons, tous les serviteurs, les choses qui doivent arriver. Et bien sûr, j'ai montré un peu les risques qu'il y a eu au premier siècle dans les assemblées avec vraiment des serviteurs imposteurs. Mais il y a, entre le très bon serviteur tel que l'apôtre et les imposteurs, il y a une gamme de chrétiens qui sont attachés à Dieu, qui ont cru en Jésus et qui vivent des hauts et des bas et qui parfois sont de bons serviteurs, à d'autres moments moins bons. Mais l'enseignement de l'Église qui est donné par Jean, par le Christ à travers Jean, l'enseignement qui est donné aux Églises, c'est pour qu'elles vivent dans l'Esprit Saint. Rappelez-vous, chaque Église va entendre la même parole, écoutez ce que l'Esprit Saint vous dit. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Nous devons être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit. Donc je vous ai cité plusieurs textes où il y avait des imposteurs qui prêchaient un faux évangile. Il y en avait d'autres. Je n'ai pas pu le faire avec vous. Je l'ai fait avec les membres de l'Église, ici locale. Et maintenant, je vais continuer la lecture de l'Apocalypse. Donc, Jean chapitre 1, verset 4. Jean, donc l'apôtre Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Il y avait plus que sept églises, les amis. Sept églises, ça veut dire à toutes les églises de Dieu, hein. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Je l'ai déjà dit, qui était, ça veut dire, c'est un verbe en grec, qui a été, est et sera. Donc le Christ est éternel, il est vivant au siècle des siècles, et il parle à l'apôtre Jean, et il parle via Jean à tous les chrétiens de l'Asie mineure, de la Turquie. Et le nom de Dieu, de Christ, c'est qui est, qui était et qui vient. À partir de la fin du chapitre 5, le mot qui vient, cette préposition, n'existe plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans les tribulations, et il semble bien, enfin c'est la conviction d'un certain nombre de chrétiens baptistes, il semble bien que le Christ est déjà arrivé, il a enlevé l'Église, il les a enlevé l'Église sur les nuées, et il est en train de regarder ce qui se passe sur la terre pendant 7 années, où Satan règne, où Dieu le laisse faire, et il est clair que il n'y a pas de doute, cette époque est très difficile pour ceux qui sont restés sur terre, très très difficile. Mais le Christ ne s'éloigne pas de la terre, il est sur les nuées avec les élus, avec ceux qui avaient la foi, qui étaient décédés, qui sont ressuscités. Et quand les 7 années sont faites, Christ brise Satan et établit son règne. Donc le mot qui vient, à partir de la fin du chapitre 5, n'est plus dans le nom du Christ. parce que c'est réalisé. Alors, nous allons lire plus loin. J'ai déjà lu, je pense, plusieurs fois déjà ces versets, jusqu'au verset 6. Je vous ai dit que nous étions un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et il est clair que dans le chapitre 5, les anges, les archanges, tout le monde glorifie le Christ. Au chapitre 5, verset 9, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, donc à la croix. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » La promesse, bien sûr, du règne de Christ de 1000 ans sur la terre. Donc, nous sommes sacrificateurs et nous sommes, quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons reçu l'Esprit Saint, que nous adhérons à la parole de Jésus et que nous la vivons, nous sommes les sujets d'un royaume selon le Saint-Esprit. Romains 14, 17, le royaume de Dieu n'est ni le manger ni le boire, mais paix, justice et amour selon le Saint-Esprit. Évidemment, le royaume visible et concret sur terre, à partir du chapitre 18, verset 20, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, ça c'est autre chose. C'est l'établissement de manière réelle, visible, du règne de Christ sur terre. Alors, au verset 7, « Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc, il est venant, hein, parti présent. Donc, il arrive, il va venir sur les nuées. Pourquoi ? Pour enlever l'Église, évidemment, pour que les saints soient mis de côté durant cette période extrêmement compliquée. Et je vous fais le rappel de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et suivants. Paul dit ceci : nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, donc ceux qui ont la foi mais qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, donc résurrection des saints. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur Jésus, nous les vivons, vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce qui correspond, donc 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 17, ce qui correspond au verset d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées. » Donc c'est une vision anticipative, prophétique, que Jean reçoit, comme l'apôtre Paul l'a reçu, évidemment. Il n'a pas sucé de son pouce. Alors, toutes les tribus se lamenteront, c'est-à-dire que ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en Christ, ne se lamentent pas. Ils sont sur les nuées avec Christ et ils sont préservés des lamentations des tribulations. Donc, ceux qui seront sur terre durant les 7 années vont se lamenter, ils vont souffrir. Évidemment, ce n'est pas souhaité à quiconque d'entre nous. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc chaque fois ce nom est répété, et qui vient, pour insister que le temps de l'histoire, le temps des nations a une fin et que Dieu prend autorité sur, pour terminer ce temps des nations et où le péché règne évidemment. Continuons. Apocalypse chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc, il est prisonnier en résidence surveillée, et il est le frère de tous ceux à qui il parle. c'est pas un prétentieux, c'est pas un monseigneur, c'est pas le pape des évêques de nazi ou patriarche. Vous voyez, le frère. Toute la simplicité. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Faites appeler parmi vous aucun maître, directeur, maître, seigneur, car tous vous êtes frères. Un seul parmi vous est le maître et le directeur, c'est Christ. C'est dans Matthieu. Évidemment, Jésus a donné cet enseignement et Jean en tient compte dans ses paroles, comme l'apôtre Paul, Pierre, etc. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc au verset 10, vous voyez que Jean reçoit un ravissement, c'est-à-dire une joie intense, et c'est une révélation qui lui a été donnée. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en 93, terminant mon institut biblique. Une personne qui, avec moi, terminait les travaux dans un chantier et qui avait énormément d'intérêt pour les énergies cosmiques et telluriques, était parti en bateau avec 200-300 personnes, tous des gens du New Age, vers l'île de Patmos. Et vers le mois de début juin, fin mai, le bateau arrivait pas loin de l'île de Patmos. Ils étaient tous persuadés que c'était un endroit magnétique et tellurique très important où les ondes cosmiques et terrestres se rejoignaient et que les révélations de Jean étaient simplement cosmiques, des énergies positives de l'univers. Et des dizaines de personnes sont tombées sur le pont, se sont roulées, ont roulé sur elles-mêmes en convulsion et parlaient en vieux grec. Et cet ami me disait, tu vois, j'ai vu la révélation, je l'attendais aussi. Malheureusement pour lui, comme j'étais son ami, j'avais prié pour qu'il n'ait pas de cette révélation diabolique. J'avais prié pour lui, il est tombé gravement malade, un hélicoptère l'a rembarqué en Belgique. Et donc, merci Seigneur. Merci Seigneur que cet ami n'a pas participé au délire collectif et qu'il n'est pas tombé dans de pires états sur l'île de Patmos. Mais il est tombé malade, gravement malade, il a été à la mort et puis il s'en est sorti et pratiquement je lui ai dit « mais tu dois faire attention ». Ce n'est pas croire en Jésus-Christ, ça. Ce n'est pas croire en Dieu. C'est de la magie blanche. C'est de la divination, etc. Il fut impossible de le convaincre qu'il se trompait. Il faisait partie d'une secte puissante où on s'organisait dans des délires chaque pleine lune, chaque mois. Et donc, il y a aujourd'hui plein de gens qui prennent le livre de l'Apocalypse pour ce qu'il n'est pas et qui en font du foin, qui en font du chaume, de la paille, alors que c'est la parole sacrée de Dieu. La révélation a été donnée par pure grâce à l'apôtre Paul, à l'apôtre Jean, à l'apôtre Pierre, etc. Et c'est par pure grâce que le collège apostolique, les 12 apôtres, ont reçu des révélations puissantes qui ont permis de fonder le christianisme. Et il ne s'agit pas de dons magnétiques, de dons de tellurique ou cosmique. Donc, la révélation de l'Apocalypse n'est pas basée sur l'intuition, sur la sensibilité personnelle, sur le sentimentalisme ou sur des dons spéciaux. Dieu choisit qui il veut et il a choisi des prophètes dans l'Ancien Testament et il a choisi les 12 apôtres pour le Nouveau Testament.
Je crois qu'on a appelé Internet. Ah si. Comment j'ai
Mais je l'ai toujours, moi.
Mais le bouton clignote, en tout cas.
Donc, Jean est notre frère, au verset 9, 2, au verset 10, il fut ravi en esprit, au jour du Seigneur, et il entendit une voix forte au son d'une trompette. Ce que nous retrouverons dans le texte de l'Apocalypse, après les trompettes. Et voilà, un message lui est donné pour les églises. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sarthe, Philadelphie, Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après de me retourner, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Cette manifestation glorieuse se retrouve aussi 6 siècles avant Jésus, donc 7 siècles avant le livre de l'Apocalypse, dans Daniel, chapitre 10, versets 5 à 6. Et aussi dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 13 à 28. Donc, à la fin du 7e siècle avant Jésus. Donc, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme un cantique de feu, une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, du bronze, en fusion, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Vous pouvez retrouver les mêmes affirmations dans chapitre 21, versets 4 à 6. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et 7 étoiles, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est les anges, les messagers, c'est des responsables des églises. Donc il a la direction sur ses responsables. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. N'oubliez pas, mes amis, que quand Jésus reviendra sur ce cheval blanc pour vaincre les puissances de ce monde, dans Apocalypse 19, verset 15, il a aussi cette épée aiguë à 2 tranchants, sa parole est toute puissante. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. L'apôtre Paul aussi a eu une telle vision. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 3, sur le chemin de Damas, au chapitre 22, verset 6, et chapitre 26, verset 13. Ces 3 visions sur lesquelles Paul insiste sont les mêmes que celles de Jean. Et je pense, quand on lit la 2e épître de Pierre, je pense que Pierre, on peut le voir, Pierre a eu de telles visions aussi. Comme je le vis, verset 17, je tombai à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous avez les mêmes affirmations dans le chapitre 21, au verset 4 et 6. Et dans Matthieu, quand Jésus a Pierre devant lui et qu'il lui dit « Tu es un caillou », et en se montrant lui-même « Sur ce rocher, je bâtirai mon église », les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon église. Matthieu 16, verset 18. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, un chandelier est destiné à porter une lumière. Et la lumière de Christ pour les nations, pour la région où elle se trouve. Le chandelier permet à la lumière de rayonner plus loin et de passer au-delà des obstacles qui sont à portée de la lumière du chandelier. Et donc, abordons maintenant l'église d'Éphèse. Vous vous rappelez que lundi, je vous ai dit dans Actes, chapitre 20, versets 28 à 32, que Paul avait annoncé que aux responsables de l'église d'Éphèse que des loups cruels se glisseraient sournoisement dans l'église et feraient beaucoup de mal et qu'il fallait qu'ils veillent et qu'ils prient. Donc cette église d'Éphèse était réellement attaquée dès le départ. C'est déjà là que Paul avait prêché l'évangile. Et beaucoup de gens qui faisaient des statues d'Artémis, en or, en argent, etc., en bois, et d'autres divinités, beaucoup de gens les avaient brûlées. La parole de Dieu semblait avoir eu un grand succès. Et Paul, bien sûr, a ramassé après de terribles épreuves, il est tombé malade, etc. Mais il dit dans l'Épître aux Corinthiens qu'il a été livré aux bêtes à Éphèse. Si on regarde le mot démonion, bête, c'est des démons qui l'ont attaqué. Et quand Paul a demandé à Christ de lui débarrasser de ses attaques, Christ lui a répondu « Ma grâce suffit, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai ». Donc Paul avait été brisé, non pas anéanti, non pas détruit, mais brisé dans ses forces. Mais Christ était toujours avec lui. Comme Christ, quand il était sur la croix, il était brisé. Mais Dieu, son Père, était avec lui. Il veillait sur lui. Il l'a ressuscité. Donc l'apôtre Paul a connu le même chemin que son maître. Brisé complètement, et pourtant gardé par le Père des cieux, par son Père, au nom de Christ. Donc, les clés de la mort et du séjour des morts n'ont pas d'autorité sur les vrais chrétiens en Christ. Même si nous mourons, nous sommes dans la gloire de Christ et nous connaîtrons la pleine résurrection, la plénitude en Christ. Donc, chapitre 1, verset 18. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, lorsque, dans l'église d'Éphèse, au chapitre 2, Christ parle à un délégué de l'église d'Éphèse, il doit rappeler que le Christ est la garantie de l'église. Il est le centre de l'église. Il est le moteur de l'église. La fondation de l'église. C'est le Christ vivant au milieu de l'église qui fait la vie d'une église. Eh bien, figurez-vous que cette église a fini par ne plus aimer Jésus, n'a plus considéré Christ comme le premier. L'église était contente d'elle-même et de ses œuvres, ses institutions, de ses qualités morales et spirituelles, mais elle oubliait l'essentiel, la personne même de Christ. Lisons. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas. C'est pour ça que je vous ai lu l'autre jour plusieurs textes concernant les faux apôtres, les faux messagers qui annonçaient d'autres évangiles. Et c'est vrai qu'il y a eu des centaines de parchemins, de livres, d'écrits à l'époque du 1er siècle racontant n'importe quoi sur Jésus-Christ. Il y avait une terrible confusion. L'ennemi n'a pas manqué de mettre la poisse, d'essayer de mettre la confusion dans l'esprit des chrétiens, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et cette église, elle, a eu la clarté, elle a dégagé tous les faux messagers et tous les faux prédicateurs, les menteurs. Verset 3, je sais que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, c'est une église très courageuse, très engagée. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, comme toujours, l'essentiel de la volonté du Père, de la volonté de notre Dieu, c'est qu'on accepte Christ dans notre vie, comme Maître, comme Sauveur, comme Seigneur. C'est la volonté première de Dieu le Père. Que Christ soit dans nos vies et que nous l'aimions de tout notre cœur, de nos pensées, de nos forces, et que nous faisions chemin derrière Jésus jusqu'au Père. Une église ne peut pas faire le chemin par elle-même vers Dieu le Père. Quelles que soient ses bonnes vertus, quelles que soient ses qualités, elle doit être derrière Christ. Elle ne doit pas s'en passer. Et il est évident qu'on oublie très vite ces choses-là. Ça vient spontanément, je dirais plutôt charnellement. Il n'est pas possible pour nous de comprendre. Mais je crois en Christ, je crois en Christ. Mais est-ce que tu vis avec lui? Tu passes du temps à l'aimer? Tu lui parles? Tu l'écoutes? Est-ce que tu le mets vraiment dans ton cœur, dans ton âme, dans toutes tes pensées? Ou c'est simplement un mot, un fantasme, une idée, un mythe. Et je vous lis Marc, chapitre 3, verset 13. Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, donc Jésus choisit ses disciples, et ils vinrent auprès de lui. Les disciples répondent et viennent. Donc appel, vocation, réponse. À Jésus. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Or le mot en grec, koinonia, c'est communion en Christ. Communion en Christ. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et bien sûr, dans Luc, de guérir les malades. Chers amis, le premier objectif de la venue de Jésus, c'est d'être en Christ. Le premier objectif, c'est d'être avec lui. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Voici, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux sur la terre. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je désire être avec Jésus ? Moi, chrétien, ce que je désire vraiment être en communion avec lui. Je me rappellerai toujours de cette brave dame qui venait à une étude biblique, qui avait déjà eu un cancer du sein. On avait prié ensemble 5 ans avant et elle avait été guérie. Dieu avait permis qu'elle puisse, 10 ans peut-être avant, pour qu'elle puisse garder ses petits-enfants. Et puis, à un moment donné, elle attrape le cancer du foie. Elle était jaune, canarie, très foncée. Et sur son lit de mort, entouré de sa famille, j'arrive, je surviens là et je dis « Ça va bien, Désiré ?» C'est une parole choquante pour la famille, évidemment, mais pas pour Désiré. Elle me répond, devant tout le monde, « Oui, je parle avec Jésus. » Oui, je parle avec Jésus. Donc ça allait très bien. Elle quittait son corps. Elle allait dans la gloire de Dieu et elle savait qu'un jour Dieu lui rendrait corps et âme, glorieux, sans deuil, sans chagrin, sans douleur, sans maladie, dans la gloire de Christ ressuscité. Vous voyez donc que la relation avec Jésus est centrale pour une église. Et pourtant, cette église qui a des qualités exceptionnelles l'a oubliée. Continuons à lire. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi et pratique ta première œuvre. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, ça semble être pour Christ une faute grave, parce qu'on l'a mis au placard. Et c'est une chute. C'est une faute grave pour une église, quand elle n'est plus christocentrique, qu'elle n'est pas spirituellement attaché et affectivement, raisonnablement, avec la raison, à la personne de Christ et à sa parole. Alors, sachons aujourd'hui faire notre autocritique et savoir où ce qu'on en est. Pratique tes premières œuvres, ça veut dire reviens à ta bonne relation avec moi. Reviens à une relation d'amour. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Jean, chapitre 14, 15 et 16, 17 ? Celui qui demeure en moi garde ma parole. Celui qui garde mes parents sera aimé de mon Père et de moi. Nous viendrons faire notre demeure en lui. Donc, il est évident que le vœu de Dieu et de Christ, c'est d'être en demeure, à perpétuité, en nous. Ça semble étonnant. Ça semble étonnant. Un tel projet divin. Pour des petites puces comme nous, des grains de sable comme nous, que Dieu ait un projet aussi grandiose pour nous. Nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu, à titre individuel et à titre ecclésial ensemble. Pour cela, vous lisez, bien sûr, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, 3 et 4. Alors, si cette église ne retourne pas à sa vie en Christ, Dieu, Christ, retirera ce chandelier de sa place. C'est-à-dire, l'Église disparaîtra. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'islam. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans toute la Syrie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, il y a eu des églises chrétiennes, des milliers d'églises. En Égypte, même en Arabie, en Irak, au Kurdistan, En Arménie, en Azerbaïdjan.
Perse.
En Perse. Et toutes ces églises, où sont-elles? À part quelques exceptions. Où sont-elles? Et quand vous analysez les églises qui restent, nous en avons accueilli en tant que réfugiés, etc. Nous en avons fréquenté aussi chez eux. Ils sont pleins de ritualisme. Ils sont chrétiens, mais sans connaître la Bible. Ils sont chrétiens sans vraiment connaître le Christ, Jésus. Ils sont attachés traditionnellement à la foi chrétienne, mais ils n'ont pas cette relation vivante avec Christ. Ils n'ont pas cet ancrage dans la parole. Ils sont donc les témoins de ce qui s'est passé, les témoins, les archéologiques, pseudo-chrétiens, je vais dire, de ce qui s'est passé des siècles avant. Des églises remplies d'habitudes et de traditions et de ritualités où les gens pensaient bien faire. Mais est-ce qu'il suffit de penser bien faire pour être en ordre avec Dieu? Non. Et c'est pour ça que les églises sont disparues. Après cela est venue la religion de la règle, de la crainte, la religion de l'islam, qui a prêché un grand Dieu, évidemment. Il y a énormément de gens qui sont très pieux dans l'islam, et que j'honore particulièrement, j'apprécie. C'est souvent avec ces personnes qu'on peut parler de Dieu, plus facilement qu'avec des Européens. Ce qu'il y a, c'est que le monde chrétien était tombé, avait chuté, et c'est ça que exprime ce texte de l'Épître aux Éphésiens. Aujourd'hui, en Occident,
ce texte de l'Apocalypse,
c'est la même chose.
Ce texte de l'Apocalypse, pas de l'Épître aux Éphésiens, je viens de dire de l'Épître aux Éphésiens.
Alors, je vous lis encore quelques versets concernant l'église d'Éphèse. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc cette église a une remarquable moralité et elle refuse les Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est de ces gaillards-là? Moi j'ai connu ça dans notre assemblée. C'est difficile, parce que c'est un mot, c'est-à-dire que ce sont des gens qui avec la tête, le dessus, connaissent la grâce de Dieu, connaissent toute la Bible, peuvent chanter, créer des chants, jouer de la musique, faire partie d'une chorale et affirmer qu'ils sont chrétiens. Mais tout ce qui est en dessous de la ceinture leur appartient et ils en font ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire, je vais vous résumer ça par la parole de quelqu'un qui était membre d'une autre assemblée et que j'ai prié de quitter. Je vais vivre dans la grâce et dans le libertinage. Deux caractéristiques opposées. Une dans la grâce et l'autre dans l'abomination, dans le péché, d'impudicité, de débauche, etc. C'est ça, Nicolaïte. Œuvre que je hais aussi. Donc la dichotomie entre l'esprit et le corps, qui régnait pas mal chez les Grecs, cette dichotomie n'est pas acceptable pour l'Évangile. Tout notre corps, esprit, pensée, psychisme, appartient à Christ. Tout, ou c'est rien du tout. Alors je vous prends l'épître, la première aux Corinthiens, chapitre 6. Ne savez-vous pas, verset 15, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 et suivant, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. L'argent, etc. Bon. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, vous avez vu l'unicité de la vocation, la totalité de l'engagement, du don de soi-même. On ne peut pas donner une partie de notre existence. Si nous avons en nous des passions folles, dingues, et que nous les entretenons, nous acceptons volontiers que Jésus n'ait pas la victoire sur nous. Nous acceptons volontiers de mentir à Dieu. Mais si nous avons conscience que toutes les tentations, et même des fautes graves du passé, déplaisent à Dieu, et que nous ne pouvons plus les commettre, nous ne pouvons pas tomber là-dedans, et que nous appartenons à Christ, nous recourons à la prière des frères et des sœurs, nous recourons à l'aide du pasteur, nous recourons à la lecture de la parole et à la méditation de la parole pour résister au péché qui revient toujours. Dans Hébreu, il est mis que aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, tu envoies la parole de Dieu, tu ne peux pas dire non à cette parole. Pourquoi ? Parce que tous les jours tu seras tenté, tous les jours la chair va revenir. Et donc, Hébreu chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu, verset 11, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand un chrétien lit régulièrement la parole de Dieu, il n'y a rien à faire. Il a devant lui un obstacle majeur pour tomber dans le libertinage et l'impudicité, la débauche. L'autorité de la parole, ça peut même lui faire mal, puisque ça rentre dans la jointure. Mais ça va lui faire mal et c'est salutaire. Comme le bistouri du médecin, il y a un abcès. Ah, pardonnez-moi, je vais vous faire mal, mais il faut que toute l'infection sorte, mon cher ami. Et le scalpel ayant fait son travail, le médecin pousse sur la plaie, toute l'infection est partie, et on met un antibiotique, une mèche. La même chose pour une dent, qui est cariée, qui fait très mal, qui est infectée. Il faut, bien sûr, tirer la dent mauvaise, et il faut mettre un antibiotique, ou même une mèche, avec un médicament dedans pour désinfecter la plaie. C'est la même chose pour nos cœurs. Cela ne se passe pas différemment que pour une plaie, un pied ou une dent cariée. Notre cœur a besoin d'être soigné tout le temps. Et au verset 13, Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui, devant Christ, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un souverain prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, nous avons un grand prêtre, un souverain prêtre sur nous. C'est notre autorité, c'est le Christ. Chers amis, il est évident qu'on peut jouer au sein des églises avec la parole de Dieu et édulcorer son sens, édulcorer le bénéfice d'une véritable autorité de la parole. Elle l'est arrangée, elle l'est diluée, elle l'est mise à la sauce de l'homme. Elle n'apportera plus rien. Dans 2 Corinthiens 13, 8, nous n'avons point de puissance hors de la vérité. C'est par la vérité que nous avons la puissance. Si nous ajoutons quelque chose à la parole de Dieu, si nous retranchons, l'évangile, la parole que nous utilisons, dans laquelle nous croyons, n'a pas le pouvoir de nous conduire dans la sainteté. Il ne faut rien ajouter, rien retrancher. Il faut avoir une profonde exigence d'honnêteté et de droiture envers la parole. Si nous nous laissons séduire, ce n'est pas par le diable, c'est par notre péché. Et cela, c'est de notre responsabilité. Donc dans cette église, il est clair que Jésus appelle à la responsabilité, à un retour à sa personne. C'est lui l'épée qui rentre dans la jointure des os. C'est lui la parole vivante et permanente qui discerne tout. Alors, le message de Jésus, de Christ à cette église, se termine comme tous les autres messages aux six autres églises, que celui qui a des oreilles, les oreilles du cœur, hein, de l'âme, qui tient à son salut, qui craint Dieu, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. À celui qui vaincra, donc c'est une bataille, il y a une bataille entre la grâce et le péché dans ma vie. Et celui qui vaincra, victoire à la grâce, victoire à Christ, à sa parole, victoire au sang de Jésus dans ma vie, eh bien, victoire à la personne même de Christ. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, à la fin de l'Apocalypse, vous avez de nouveau l'arbre de vie, tout à la fin, qui est donné. Comme au début de la création, l'arbre de vie était donné aux humains avant le péché. Et après, ils n'y ont plus eu droit. C'est extrêmement important, chers amis, que nous comprenions ce qui s'est passé pour cette première église. Je peux regarder l'heure à l'horloge ?
Il est moins 5, papa.
Voilà. Je vais peut-être aborder rapidement une deuxième église aujourd'hui, de manière à ce que vous puissiez avoir matière à réfléchir jusque vendredi. Verset 8, écrit au messager de l'église de Smyrne, toutes ces villes existent, hein, et il y a des ruines antiques, il y a des endroits qui prouvent tout cela. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, donc c'est Jésus-Christ. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. De Christ, hein, riche dans la foi en Christ. Hein. Tribulation et pauvreté, bien, il y avait tellement d'épreuves sur cette église que c'était presque insoutenable. Mais vous savez que je regardais les statistiques aujourd'hui sur Internet, il y a 245 millions de chrétiens qui souffrent de persécution aujourd'hui. En faites-vous partie? Et ça commence en France. Il y a plusieurs cas de persécution sur les chrétiens en France. Probablement aussi dans d'autres pays. Mais le temps que ça soit répertorié, il y a des agences spéciales, tout à fait objectives, qui répertorient tous ces cas-là. Et donc on peut les retrouver sur Internet. Et c'est tout à fait objectif. Donc l'église de Smyrne, c'est une église, à mon avis, c'est un type d'église qui existe énormément dans beaucoup de pays. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort qui est revenu à la vie, donc Jésus-Christ ressuscité et vivant. Je connais ta tribulation, ta pauvreté et les calomnies de la part de ceux, ici qui se disent juifs, et qui ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Il est clair que ce verset a été utilisé plus tard pour l'antisémitisme. C'est malheureux à dire, dès le deuxième siècle, certains pères de l'Église ont pris ce verset pour devenir quelque peu anti-juifs. Je ne dis pas clairement antisémite, c'est exagéré, mais ils ont commencé à déraper. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Au premier siècle, il y avait énormément de synagogues dans lesquelles les chrétiens d'origine juive allaient encore pour pratiquer en même temps le rite juif. Et ils voulaient, ils aimaient leurs frères et leurs sœurs juives, ils voulaient être encore avec eux, tout en ayant adhéré à Jésus et vivant en Christ. Et ils ont été rejetés au sein même des familles juives, ils ont été calomniés, rejetés. Et il est clair qu'il y a eu des bons juifs qui ont été tolérants, patients, envers ceux qui les avaient quittés, qui étaient devenus chrétiens, et qui ont eu de l'amour. Et puis il y a des autres, surtout les autorités, parmi sacerdotales, rabbiniques, il y a eu des gens qui ont été extrêmement durs vis-à-vis de ceux qui avaient quitté la synagogue, la confession juive, qui voulaient allier la foi en Jésus et la confession juive. Et donc, il y a eu énormément de conflits et même des persécutions, de violences. Et donc, quand vous allez dans Jean 8, Jean 8, verset 43-47, Vous allez voir que on pourrait dire, mais Jésus était donc anti-juif. Il était juif lui-même. Comment pourrait-il être juif? Tous les premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres sont juifs. Comment pouvait-il être anti-juif? C'est mal comprendre le texte. Mais Jésus était contre quelque chose dont certains juifs se revendiquaient. Ça, c'est différent. Et nous allons voir dans Jean chapitre 8, versets 43 à 47. Donc, si je commence au verset 39, c'est ces responsables juifs, c'est pas tous, parce que Joseph d'Arimathie et Nicodème n'ont pas marché dans la combine, ils aimaient Jésus. Au verset 39, ils répondirent à Jésus, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc la repentance, évidemment. Alors, au verset 42, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc qu'est-ce que fait ici Jésus? Il dit, vous êtes opposé au Messie annoncé par les prophètes et par les Écritures, le Messie qui va donner sa vie pour vous sauver. Vous voulez pratiquer des œuvres religieuses et des traditions et vous prétendez que vous allez pouvoir être sauvé par ces œuvres-là. Mais non, vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos règlements. À l'époque de Jésus, en plus des 10 commandements de Moïse, il y avait 612 règles. Et toutes ces règles empoisonnaient la vie du peuple. Et il n'y avait pas possibilité pour le peuple de s'y retrouver. Ils étaient dans la confusion, la culpabilité, l'angoisse. Et les responsables religieux régnaient sur un peuple ignorant, qui ne connaissait pas bien la Torah, ni les prophètes. Et je vais vous lire Ésaïe, chapitre 28, qui annonçait, qui dénonçait déjà cela. C'est l'Esprit Saint qui le dénonçait. Chapitre 28, verset 10, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Je vais un peu plus loin. Verset 15. Pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris, comme des oiseaux dans un filet. De quel filet s'agit-il? Du diable, évidemment. Et voici ce que Dieu dit dans Ésaïe. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, quand le fléau débordé à Passerail ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous rendez compte, 8 siècles avant, Jésus. J'ai mis pour fondement en Sion, donc à Jérusalem, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posé, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, les eaux inonderont l'abri du mensonge, votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas, quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Ça c'est la parole de Dieu. Oui, c'est clairement Jésus. Donc quand Jésus, au chapitre 8, dit la même chose au prêtre, c'est pas simplement Jésus qui a un problème. C'est le problème, c'est que ceux qui sont responsables religieux ne donnent pas le vrai sens de la parole de Dieu et n'aiment pas Dieu, n'ont pas de relation vivante avec Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils assènent des règles, comme on donne des coups de marteau sur un enfant pour qu'il introduise en lui la crainte, l'obéissance, la soumission. Comme ça, il donnera au temple un peu plus d'or et d'argent chaque fois qu'il viendra, un peu plus de sacrifices. La ritualité est suivie de l'intérêt, ou précédée de l'intérêt et de l'orgueil des chefs religieux. La ritualité cache quelque chose. La traditionnalité cache toujours quelque chose. Et il n'y a pas de présence de Dieu dans ce Barnum Circus. Donc Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11, il y a dans cette ville de Smyrne un conflit grave entre des gens traditionnalistes, légalistes, sectaires, qui ne veulent rien entendre au message de Jésus et qui persécutent les chrétiens. Mais il ne s'agit pas d'un message anti-juif. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici ce que Christ dit à l'Église. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, par les autorités romaines, hein, évidemment, parce que les responsables juifs n'ont pas le droit. C'est comme pour Jésus. Quand on a arrêté Jésus, on l'a confié aux Romains pour qu'ils le crucifient. Ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. La seule besogne, c'est aux autorités romaines. Donc, sans doute à Smyrne, certain nombre de responsables juifs avaient les bras longs et pouvaient faire intervenir la gendarmerie, la police romaine, si vous voulez, la Gestapo. Et le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc, Christ dit, tu résistes. C'est bon. Tu es avec moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que la première et seconde mort? La première mort, c'est celle quand nous sortons du ventre de la maman, nous avons reçu le péché d'Adam et Ève, dès la conception. Nous sommes nés morts, c'est-à-dire séparés éternellement de Dieu. Ensuite, si nous croyons en Christ, nous repentons de nos péchés, nous repentons de Jésus, nous passons de la mort à la vie. Jean 5, versets 23-24. Celui qui garde ma parole et qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne passe point en jugement. Ensuite, celui qui n'accepte pas Christ, qui n'accepte pas cette conversion, il connaîtra une seconde mort, c'est-à-dire qu'à la seconde résurrection, pas celle des saints, mais celle au jugement final, il ressuscite et il est jugé et jeté avec Satan et tous les incrédules dans les temps de feu et de soufre. Ça, c'est la seconde mort. Et vous avez ce texte de la seconde mort, bien sûr, dans Apocalypse, chapitre 20, versets 4 à 6. Il y a un choix. Je suis mort une fois à cause du péché d'Adam et Ève, ça me suffit. Moi, je vis éternellement en Christ. Quoi qu'il m'arrive, physiquement, matériellement, économiquement, je reste en Christ. Je connaîtrai la gloire de Christ, je suis en Christ. Je suis dans la vie glorieuse de Christ. Si jamais je me débine et je trahis, si jamais je ne suis pas fidèle jusqu'à la mort, fidèle dans mes difficultés, que je renonce, je renie Christ, qu'est-ce qui se passe? Je fais partie des incrédules et donc j'ai une autre destinée. Donc ce texte ici correspond très bien à la difficulté d'existence d'un tas de chrétiens à travers le monde aujourd'hui. 245 millions de chrétiens répertoriés comme persécutés. Chers amis, prions pour ce type d'église, comme Smyrne. Prions pour ce premier type d'église, Éphèse. Et regardons si nous ne sommes pas de ceux-là. Et soyons très attentifs, l'Esprit Saint veut nous parler aux oreilles de notre cœur. Pour cela, il faut ouvrir la parole de Dieu et dire, parle Seigneur Jésus, ton serviteur écoute. Et il est disposé à t'obéir. Amen. Que Dieu vous bénisse.